très honnêtement, je ne sais pas si mon expérience autorise quoi que ce soit. Mais alors, quand on parle de l'expérience d'un cadre, ça veut dire qu'il est plus proche de la sortie que du début. Et que finalement, comme accueil, bon. Mais j'y reviendrai. Mais je vais d'abord vous lire, pour commencer, en venant ce matin dans le métro, avant de prendre le train, j'ai lu, ça va vite, hein, Peter Gimbel, ça vient de paraître, il y a 15 ou 20 ouvrages qui paraissent au moment de la rentrée scolaire. Alors là, quand on parle d'éthique ou de morale, vous voyez bien qu'il y a quand même un problème éthique, sans doute, pour un certain nombre des membres de l'éducation, hein, à faire paraître au moment de la rentrée un ouvrage de ce type. Enfin, l'aspect commercial, quand même. Donc, et on contextualise. Ce que dit Gimbel, qui n'est pas enseignant en lui, puisque c'est un reporter du Time Magazine. « Dans chaque pays que je connais, l'éducation est un sujet qui fâche, qui inquiète, qui préoccupe, mais il n'y a qu'en France qu'elle est une véritable obsession. » Alors déjà, parler d'obsession, on peut se poser la question sur quel sens moral on donne à l'école, quelle éthique il faut y développer. Être obsédé, alors on peut être obsédé de la qualité, sauf qu'on attache quand même volontiers à l'obsession de la dévaleur plutôt que de la valeur. Mais quand Marie-Françoise m'a proposé d'intervenir, je lui ai dit oui, parce que c'est vrai que cette question sur les valeurs, parce que nous sommes en France, et sans doute faut-il contextualiser aussi notre propos, je lui ai répondu oui. Et puis après, quand elle m'a posé le sujet, et en préparant cette intervention, j'ai beaucoup hésité et beaucoup regretté d'avoir accepté. Je me suis dit, je vais l'appeler pour lui dire quelle aventure. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, mais ça n'aurait pas été... Mais l'éthique qui est la mienne m'a conduit à persévérer dans la préparation. Puis ça n'aurait pas été très valeureux, vous vous en doutez bien, de laisser tomber le donneur d'ordre, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, que j'apprécie beaucoup, après lui avoir dit oui, parce qu'elle se serait dit, mais comment je vais faire pour trouver quelqu'un d'autre pour remplacer, parce que, comme toujours, on prépare toujours à la dernière minute. Et puis, elle aurait pu me faire savoir que c'était pas très moral non plus de la laisser tomber. Elle aurait eu tout à fait raison. Puis déontologiquement avouer que ce n'est pas une semaine avant qu'on réagit. Alors, je m'inquiète beaucoup parce que finalement, en reprenant cette phrase, je me dis qu'on pourrait peut-être changer l'ordre des mots et que si on ne met pas les mots au bon endroit, on est susceptible de changer aussi le sens. Et ne pas oublier, et ça fait partie de votre rôle d'accompagnateur, ne pas oublier que les mots que vous utilisez doivent être utilisés dans un contexte particulier, dans un champ lexical ou un champ sémantique quand on parle des expressions, et que dans ce champ-là, les mots ont un véritable sens et qu'il faut absolument les utiliser à bon escient, sinon on est susceptible de briser complètement les progrès que l'on veut faire aux personnes que l'on accompagne. Alors effectivement, vous voyez, je vous ai mis tous ces mots qui doivent vraiment prendre sens dans notre système éducatif. Je vous disais qu'il y avait il y a une filiation, il y a une relation très étroite entre l'histoire de notre pays et l'école. La construction de l'école française s'est faite véritablement à l'école moderne, et ça n'est rien dans une histoire sociale et dans l'histoire sociale d'un pays, c'est rien, 150 ans. C'est fait sur le dernier siècle. Donc nous sommes sur une école qui est relativement jeune, malgré tout, mais qui pour autant prend son ancrage dans des mouvements politiques très forts. Et le développement de notre pays est très lié, le développement de l'école française est très lié au développement social et sociologique de la France. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question et encore moins de la chose philosophique, puisque on touche, en parlant valeur, on touche ce domaine. Et je pense que d'autres que moi auraient pu très avantageusement prendre ma place. Et je pense notamment, et si vous avez l'occasion d'y aller, à Jean-Pierre Aubin. Jean-Pierre Aubin, qui est un inspecteur général qui est parti depuis peu à la retraite et qui a beaucoup écrit sur les valeurs dans le métier d'enseignant, les valeurs dans l'école et les valeurs à mettre en œuvre quand on pilote un établissement scolaire. Puis je pense que parmi vous, il y a sans doute un certain nombre qui auraient pu s'adresser à l'auditoire à ma place. Par contre, je dois dire qu'en tant qu'observateur, qu'en tant qu'évaluateur, mais aussi, et je ne rejette absolument pas ce terme, en tant que contrôleur dans les fonctions qui sont les miennes, je le dis, même si ça peut heurter certains d'entre vous, je suis interpellé, fortement interpellé, par l'affaiblissement, si ça n'est pas par l'affaissement, du sens de l'école. Et du sens que de plus en plus d'usagers, le terme n'est pas très beau pour un service public comme le nôtre, mais je crois qu'on s'entend tous dessus, du sens qui est renvoyé, on va dire, par ces usagers, renvoyé par les familles, et que n'ose peut-être pas contrecarrer les acteurs de la chose scolaire. Pour mille et une raisons, on pourra en parler. Je travaille en ce moment sur l'école comme facteur d'intégration sociale et culturelle sur une commande du Haut Conseil à l'intégration. Alors évidemment, la commande m'a été passée au mois de mars. D'ailleurs, l'été a amené d'autres approches, mais en se retirant de cela, quand on analyse et quand on auditionne un certain nombre d'enseignants, et on l'a fait bien avant l'été, on s'aperçoit que par rapport à des positions prises par un certain nombre de parents, notre institution, à tous les niveaux qu'elle soit, ne réagit pas suffisamment fortement pour réinstaller, et ça n'est pas de la dictature, et on va voir pourquoi, pour réinstaller les valeurs qui doivent sous-tendre le fonctionnement de l'école. Et aujourd'hui, j'alerte, et je crois que nous sommes plusieurs à alerter sur cet affaissement visible, perceptible, du sens de l'école. Alors, l'actualité, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'actualité des dernières semaines, et on va passer sous silence, hein, je dirais les mois le dossier des Roms, etc. Enfin, l'actualité à des degrés divers nous a donné des occasions de nous pencher sur des relations qui unissent des acteurs, des pilotes, et relations qui unissent des acteurs et les attentes formulées par leur environnement. Je vais prendre deux événements qui sont absolument différents l'un de l'autre, mais qui illustre bien le malaise ambiant, le malaise dans lequel se situe aussi indirectement l'école. Vous allez voir, ces deux événements sont très différents. C'est l'équipe de France de football et la Coupe du Monde. Les effets sont extrêmement importants de cette Coupe du Monde. Et des conséquences du comportement des joueurs à l'intérieur des banlieues et dans nos établissements de banlieue par rapport à une population, et suite aux événements qui ont pris corps durant la Coupe du Monde, vous avez vu des journaux qui habituellement n'avaient absolument pas dans leur vocabulaire le mot valeur, le mot morale, etc., s'emparer de ce mot-là, peut-être le mettre à toutes les sauces, mais enfin sortir derrière un certain nombre d'actions, sortir un mot, sortir des mots que l'on trouve ici dans cette liste, morale, valeur, éthique. Ce sont des choses qui sont ressorties et qui, pour autant, à l'intérieur d'un certain nombre d'écoles, ne se sont pas traduites par une réaction. Au contraire, nous avons vu dans des écoles ou dans des lycées des prises de position franchement en opposition à ces valeurs et en adhésion à quelques joies, ce qui a rendu difficile la tâche d'enseignant dans les classes. Deuxième événement, je suis sûr que vous êtes allé le voir, c'était dans à la même époque d'ailleurs, samedi 3 juillet 2010, Philosophie, l'épreuve de la discorde, un article du Monde. C'était la réaction des membres de jury de concours, parce que finalement, il n'y a pas que les membres du jury de philosophie. Eux l'ont fait valoir dans un article, mais d'autres ne l'ont fait valoir que à l'interne. Eh bien, il y a eu des réactions de membres de jury de concours à l'introduction d'une question posée sur la première des 10 compétences de la fonction enseignante, agir en fonctionnaire de l'État de façon éthique et responsable. Et bon, l'honnêteté du Monde, enfin je ne fais pas publicité pour le Monde, tout le monde dit le Monde ou presque, bon, a présenté les deux points de vue. Hein. Il y avait deux articles, l'un qui disait il est légitime d'être interrogé sur les valeurs de la fonction publique, parce que c'est la fonction publique. Son poids dans notre société française est important. Puis l'autre qui dit une résistance éthique contre l'évaluation. Donc, vous voyez bien que là, depuis quelques semaines, on fait émerger un débat jusque-là enfoui sous des relations, je dirais, fortement imprégnées d'individualisme et d'affranchissement du collectif. Eh bien, on fait émerger un débat sur n'est-il pas temps de retrouver des valeurs. On verra pour l'école ce que sont ces valeurs. Et ce que dit un des auteurs un des deux articles, ce qui prévaut désormais dans la sphère publique, et c'est excessivement important ça de le prendre comme ça, ce qui prévaut désormais dans la sphère publique, ce n'est plus la politique mais la morale, ce n'est plus la construction du « nous » et du lien social, mais l'affirmation du « moi ». Donc vous voyez que c'est derrière, on voit bien qu'il y a besoin de construire, de reconstruire un certain nombre de choses et de penser aussi le collectif. On va tout de suite s'entendre, si vous le voulez bien, sur des définitions. On ne va pas discuter sur les définitions. Jean-Pierre Aubin vous aurait présenté un ensemble de définitions, mais il est philosophe de formation, donc on peut tout à fait le concevoir. C'est que pour arriver à une déontologie professionnelle, et je souhaite vraiment qu'on puisse établir une déontologie professionnelle. Certains d'entre vous me diront « oui, mais déontologie renvoie à un conseil de l'ordre, renvoie à des sanctions quand la déontologie n'est pas respectée ». Je ne suis pas forcément adepte de sanctions, mais quand la déontologie n'est pas respectée, il faut peut-être remettre les choses quand même en ordre. Donc, trois définitions, c'est l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? Et je reprendrai volontiers la définition de Paul Ricoeur. C'est le souci permanent de s'intéresser à l'autre, de voir pour l'autre ce qui est bon et ce qui est juste ou pas pour lui. Et, ça, dans la fonction d'accompagnement, ça me semble être très important, mais en ne s'arrêtant pas à l'autre enseignant ou personnel d'éducation, parce que j'oublie pas que je suis établissement à vie scolaire et qu'il y a des CPE. Hein. Mais je mets bien dans les enseignants, les professeurs documentalistes. En sachant que s'intéresser à l'autre, c'est amener la personne qui est accompagnée à s'intéresser à l'élève. D'abord à l'élève. Et l'éthique de notre fonctionnement à tous, elle va vers l'élève. Les valeurs, je reprendrai pour déterminer le mot valeur, ce que Jean-Pierre Aubin, il va d'abord vers la référence du marché, hein, la référence économique, c'est une référence qui marque le prix ou le caractère de perfection attribué à un être ou à une chose, et dans le domaine social, qui nous préoccupe surtout, c'est le principe permettant à un groupe de se mobiliser ou de justifier son action, à quel titre je fais cela. Et cela, je crois que quand on rassemble, à mes yeux, ces deux concepts, nous parvenons, même si les choses ne sont pas écrites, à établir et à faire établir aux enseignants une déontologie professionnelle que je définis, moi je définis comme ça, hein, un ensemble des règles et des devoirs, pas uniquement des règles. On peut avoir des règles, hein, et puis finalement on n'applique pas la règle et ça ne fonctionne pas bien. Mais ça ne porte pas forcément à conséquence. Quand on parle de devoir, on introduit déjà, on voit bien qu'on va chercher des éléments dans le registre des valeurs. Et dans ce que je vous montrerai sur les valeurs et sur les devoirs qui doivent être celui de l'enseignant qu'il faut vraiment amener à maîtriser, il y a entre autres le devoir de laïcité, j'y rejoindrai. Mais c'est sans doute chez nous, je crois qu'on a à reconstruire cela ou à construire un ensemble de règles, même si elles ne sont pas écrites, un ensemble de règles, un ensemble de devoirs qui doivent donner des repères. Et pour l'accompagnateur, pour le tuteur, dans un cadre renouvelé de la formation, ce passage de rappel est absolument incontournable. J'ai pour la suite de mon propos trois idées structurantes pour exprimer le cœur de la problématique qu'on m'a demandé d'exposer. Première partie, si vous voulez, l'école française, et j'insiste parce qu'on en parlait au repas rapidement, la structuration de l'école n'est pas la même. Puis là, on parlait de la Belgique, l'identité belge ne s'est pas construite avec les Gaulois, quoi. Hein? Encore que... Vous étiez un peu gaulois, un peu plus gaulois que plus haut. L'école française est-elle, c'est pour ça que je pose une interrogation, mais je crois que oui, elle est à la croisée de deux paradigmes qui d'emblée ne convergent pas. Ça sera le premier point de mon intervention, qui va suivre. Deuxième idée, c'est que les acteurs de l'école de la République doivent se retrouver sur des valeurs essentielles et non négociables, devoir. Hein? Et puis troisième point, ce qui vous revient à vous, c'est qu'une fois qu'on a déclaré tout ça, et notamment le deuxième point, il s'agit de faire émerger chez l'enseignant ou le CPE l'image identificatoire auprès des jeunes qui l'éduquent. C'est-à-dire que ces valeurs qu'il faut rappeler, qu'il faut reconstruire, il faut que la personne, l'enseignant, le CPE s'en empare et qu'il soit le représentant de ces valeurs auprès de l'élève. C'est le meilleur moyen qu'il y a de faire accepter les choses et d'enseigner et d'éduquer surtout. On ne rentrera pas dans l'aspect évidemment pédagogique, mais ça fait partie on a tous rencontré, on a tous été là à la croisée du chemin d'un enseignant et d'une autre qui nous a déterminés dans telle ou telle décision. Alors, l'école française a la croisée de deux paradigmes qui ne convergent pas d'emblée. C'est que, quand on lit les choses, il y a deux systèmes de valeurs qui sans doute peuvent être opposés. C'est l'universel et le singulier. Et comme je n'ai pas dit le tout et le singulier, on voit bien que l'universel, à un moment donné, il peut quand même rencontrer le singulier, ou tout au moins que le singulier peut plus volontiers aller vers l'universel. L'universel, c'est la caractéristique même des, je dirais, de l'aliment, enfin, c'est ce qui alimente notre système éducatif. C'est le modèle républicain, c'est le modèle jacobin, c'est la centralisation extrême que ceux qui se sont sortis de la Révolution, qui ont emmené la Révolution française jusque vers le 19e siècle, ont mis en œuvre, et dans lequel le Napoléon et toute l'organisation du système éducatif qui en découle a puisé ses racines. C'est l'universalité du peuple, c'est l'universalité de la loi. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes encore très marqués par cela. L'école de Jules Ferry est une école qui est une école du peuple, pour le peuple, en opposition à d'autres valeurs qui s'étaient construites avec la grande bourgeoisie, l'aristocratie. Et aujourd'hui, on reste quand même sur l'école du peuple, pour le peuple, avec toutes les difficultés qui sont les siennes et qui justement font émerger le singulier. Et puis, prenez dans les exemples quotidiens, alors peut-être que, alors s'il y a des IEN dans la salle, enfin il y en a puisque j'en ai rencontré, l'université de la loi, c'est notre code de l'éducation. On a codifié énormément de choses pour que, à chaque fois qu'il y a un cas qui se présente, on puisse aller vers la loi et qu'on ait une solution, et de toute façon, on n'en sortira pas, quoi. Hein? Et puis, le singulier, c'est le singulier de Tocqueville, c'est le modèle démocrate. Alors, on peut être républicain et démocrate, c'est pour ça que ça peut converger quand même, heureusement, mais on peut être républicain et pas démocrate du tout. Hein? On a des républiques qui se construisent, enfin, qui se disent républiques, ils sont dans l'universel, c'est pas le même universel que nous, ce qui est quand même curieux, et qui ne donne pas la place, là, pour le coup, à la démocratie, au singulier, rassemblement de communautés, hein? Diversité et particularisme. Est-ce que dans l'école que l'on veut universelle, on fait entrer les particularismes? Je peux vous dire que compte tenu de ce que je lis et j'entends, on voit bien l'émergence, la poussée de particularisme, la poussée de minorité à l'intérieur de l'école, et on verra comment ça s'exprime d'ailleurs dans les faits. Et puis, c'est le principe de tolérance. C'est-à-dire que si vous êtes d'accord pour faire rentrer des particularismes dans l'école, ben vous adaptez votre système de relation avec les enseignés. Vous tolérez de pouvoir vous comporter autrement que par un collectif, face à un collectif humain. Cela a des conséquences sur le rapport au monde. L'universel, pour l'universel, l'école doit être soustraite à la société civile. Et on sanctuarise l'école. On met l'école en deux, pas à côté, pas en dehors, on la met au-dessus. Et l'école est faite pour que le jeune s'élève. On travaille à l'élévation du jeune. Et peu importe à la limite comment le monde se passe autour, on garde le même principe, et c'est l'école de Jules Ferry. Et c'est l'école de Jules Ferry. En opposition au singulier où l'école doit s'ouvrir au monde. Évidemment, si vous faites rentrer les particularismes à l'intérieur de l'école, ça veut dire que vous ouvrez l'école au monde. Et que la pédagogie que vous allez introduire par rapport à cette ouverture est fondamentalement différente. Sauf qu'il est important, dans notre système éducatif français, de pouvoir, je dirais, là, à ce niveau-là, conserver, faire converger les deux. Quand on parle, on voit bien, quand on parle de l'école qui doit être soustraite à la société civile, c'est peut-être, ça se traduit par des programmes qui sont souvent, pour un certain nombre d'entre eux, construits en amont. Et sûrement une évaluation d'ailleurs qui est complètement décalée de la réalité. L'évaluation ponctuelle, elle est à un moment donné pour tout le monde, elle est sortie complètement du contexte d'apprentissage de l'élève. Le contrôle en cours de formation, le contrôle en cours de formation prend en compte le contexte et donc le particularisme. Le rapport au savoir. Le rapport au savoir est différent quand on est dans l'universel. C'est le primat du savoir dans l'universel. C'est l'instruction. Le ministère Jules Ferry, c'était le ministère de l'instruction publique et il a traversé toute la Troisième République, pratiquement toute la Troisième République. La didactique et l'évaluation sommative. On ne reconnaîtra la qualité de l'élève qu'à l'aune du savoir. Combien de choses sait-il ? Dans le singulier, on met l'accent sur la relation ou l'interrelation pédagogique, le lien qui va exister entre l'élève ou le groupe d'élèves, parce qu'on peut avoir du collectif, du collectif aussi dans le singulier, on peut avoir des élèves qui présentent les mêmes caractéristiques, et on va introduire, c'est sans doute d'ailleurs les mouvements pédagogiques qui le montrent, le pédagogie freinée notamment, on va introduire des savoirs complexes, on va travailler sur les compétences, on va laisser l'élève construire son propre parcours à l'intérieur d'une discipline. Exemple, parce que Marie-François m'avait demandé de donner des exemples. Je donne des exemples. La main à la pâte. La main à la pâte. Vous voyez, on est sur déjà, il y a des experts sans doute plus que moi sur cette question, mais on est quand même dans des savoirs complexes, dans la construction, dans la déconstruction, puis la construction d'un savoir complexe, des situations systémiques. Le socle commun de connaissances et de compétences, j'y reviendrai. Et puis, si on va jusqu'au bout, on est dans une évaluation formative. Alors là, pour le coup, je ne suis pas certain qu'on ait réalisé la convergence. Je ne suis pas du tout certain. Aujourd'hui, dans le fonctionnement de notre système éducatif français, qu'on soit vraiment... on est quand même un peu dans l'universel, de vous à moi. Je crois qu'on est un peu dans l'universel. Sauf qu'étant beaucoup trop dans l'universel ou en peinant à aller vers le singulier, je ne dis pas qu'il faut aller systématiquement vers le singulier. L'apprentissage dans le collectif a des vertus dont il ne faut pas s'affranchir. Mais on risque de passer à côté de choses essentielles sur des publics qui sont en grande difficulté. Et le primat du savoir risque d'être très destructeur par rapport à des publics qui sont très en demande d'école. On pourra y revenir dans le débat. En ce qui concerne l'évaluation, la convergence des systèmes, je crois que si certains d'entre vous interviennent en lycée professionnel, on a les deux, on a à la fois le contrôle en cours de formation, puis des épreuves ponctuelles. On sait combien les choses ont été fortement discutées au moment de la rénovation de la voie professionnelle et de l'épreuve de rattrapage ou des épreuves de rattrapage pour les élèves qui n'auraient pas bien réussi, notamment sur un certain nombre d'évaluations. On voit bien que là, les choses ne sont pas stabilisées, nous ne sommes pas du tout à l'aise, héritiers de l'école de l'universel et profondément héritiers de l'école de l'universel en matière d'évaluation sommative. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Combien est-ce difficile? Et c'est sur vous que les choses reposent. Hein. Vous n'êtes que 41, ça m'ennuie un peu. Hein. Mais faire passer l'évaluation par compétences, c'est quand même sur vous que ça repose. Et là, je peux vous dire qu'on devrait se retrouver pour faire le bilan dans quelques années, pas l'année prochaine. Le rapport à la différence, l'universel, prend le pas sur les différences. C'est le collectif. Et le collectif, avant tout, l'enseignant est dans sa classe. D'ailleurs, si un certain nombre d'entre vous ne l'ont pas dit à la rentrée, ou n'osent pas le dire aujourd'hui, c'est qu'ils sont timides, on va le dire comme ça, mais pour la réforme du lycée, vous allez dans un établissement scolaire et je pense qu'un certain nombre d'enseignants ont dit « mais je n'ai pas mes élèves, ma classe, où est ma classe ?» Non, il n'y a plus de classe. La notion de classe est en train, là, au niveau du lycée, d'éclater pour aller vers la notion de groupe. Et de la notion de groupe, on en est là pour l'instant. Il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire que, vous voyez, on va passer de l'universel vers le singulier progressivement, parce que si on va à la notion de classe, ma classe, à la notion de groupe, mon groupe, il faut continuer en disant, et les compétences que je dois amener à ce groupe, parce qu'elles sont différentes du groupe qui est celui de mon collègue, qui appartient pourtant à la même classe. Voilà, vous voyez, ce changement de l'universel vers le singulier, c'est un peu compliqué, et parce que l'élève est un sujet de droit sur lequel on travaille dans un corps constitué. Sur le singulier, les différences sont reconnues. Il y a des élèves qui avancent plus vite que d'autres. Et on ne va pas parler de leurs origines. Il y a des élèves qui, dans le cognitif, sont plus rapides que d'autres. On a des élèves pour lesquels telle méthode est plus accessible que pour d'autres élèves. Les différences sont reconnues. Sa pédagogie est adaptée. Et l'élève est un sujet empirique. On le prend en évolution. Et ô combien c'est important de dire cela quand on est, quand on accompagne un enseignant qui intervient sur le cycle central du collège. Je ne sais pas d'ailleurs me semble-t-il, je crois qu'on réfléchit à une... Peut-être. Moi, je serais assez favorable à ce qu'on réfléchisse à une révision des cycles au collège. D'abord parce que avoir un cycle en sixième d'une année, avouez que ça n'a pas grand sens. Enfin, c'est un petit peu... Une année scolaire égale un cycle. Bon. Même chose pour la classe de troisième. Mais le souci, c'est que... vous avez tous constaté, et il faut mettre le doigt dessus, c'est que la transformation de l'individu, elle est variable d'un individu à l'autre, c'est vrai, mais la classe de quatrième est une classe extrêmement fragile. Enfin, l'élève y est extrêmement fragile. Il est fragilisé parce qu'il est en pleine mutation organique et qu'au moment où il se construit son identité, de façon déterminante d'ailleurs parfois, on est en train de lui demander comment il va, qu'est-ce qu'il veut faire l'année prochaine, qu'est-ce que tu feras quand tu seras plus grand, mais il est déjà grand parce que, alors par rapport à moi, je peux vous dire, il a drôlement grandi, l'élève de quatrième. On lui demande de faire des choix, hein, mais des choix importants, à un moment où il se construit, il est en pleine mutation, où finalement sa préoccupation est peut-être davantage sur son corps que sur la projection et sa projection dans l'avenir. Et donc, Et là, on voit bien que je serais plutôt favorable à un cycle, malgré tout, revenir comme avant, 6e, 5e, où on peut encore construire des choses avec, dans les apprentissages, dans les méthodes d'apprentissage. À partir de la classe de 4e, de l'âge de 15 ans, on va dire 14-15 ans, les choses deviennent plus difficiles. Il faut donc être très attentif à cela et introduire, justement, et faire prendre conscience au nouvel enseignant qui arrive, que lui aussi s'est transformé à cet âge-là, et que le rapport aux apprentissages, eh bien, il est aussi très dépendant du rapport qu'on peut avoir à un moment donné au corps, du rapport qu'on peut avoir à un moment donné avec sa famille. Il y a des moments où, en classe de seconde, on a envie de s'affranchir d'une certaine forme de tutelle pour mieux la retrouver après, certes, les chercheurs le disent, mais pour autant, ça fait partie de tous ces éléments de la vie qui, si vous ne prenez pas l'élève dans le singulier, vous échappe totalement et induit et implique que l'élève échappe aussi aux apprentissages. Le rapport aussi à l'individu. Il y a peu de rapport à l'individu quand on est dans l'universel, on pense surtout au commun. Les programmes nationaux, c'est ça. Et les individus sont rassemblés dans un collectif uniforme, et si je reprends l'établissement scolaire, c'est la classe. Et quand vous allez... Je crois que c'est lui qui parle nous voir ce matin, la boîte noire. La boîte noire. On a envie de savoir ce qui se fait dans cette boîte noire, c'est-à-dire les relations qui s'installent, sauf qu'on ne voit qu'une boîte noire, donc on ne voit qu'un collectif, et encore on ne voit pas comment le collectif est construit. Et comme l'école est au-dessus de la société, eh bien les enseignements sont indépendants des réalités socio-historiques, ou peut-être social-historiques, hein? Non, socio-historiques. Dans le singulier, bien sûr, on appuie sur ce qui différencie. L'individu est valorisé. Regardez par rapport à la valorisation. Qu'est-ce que vous valorisez dans le collectif? Vous allez valoriser l'établissement. En collectif, l'établissement est valorisé. On regarde avec beaucoup d'attention les palmarès des établissements. On regarde à l'intérieur de l'établissement que telle classe a mieux réussi que tel autre, on reste dans le collectif, on met beaucoup moins l'accent, et sur, je dirais, les 50 dernières années, on a très peu mis l'accent sur la valorisation de l'individu lui-même. Je ne dis pas qu'il faut remonter à la distribution des prix, mais qui était quand même un moment de valorisation, et je tiens à vous dire que depuis 2003, on reparle de ce type de valorisation des individus. Et quand je suis, je vous donne une expérience, reprenant un poste de DSDEN en Meurthe-et-Moselle, un Villaujard, voilà, vous savez où ça se passe. Donc, dans le milieu de la campagne, un collège de 300 habitants, en 2000, alors là, non, c'était en 1998 déjà, le principal vient me voir, il me dit ce que vous voulez participer à une remise des prix. Je dis, oh, monsieur le principal, ça fait un peu image d'Épinal, c'est pas très loin, Épinal. Et il me dit, ah non, c'est extrêmement fort. J'y suis allé et il y avait une vraie distribution des prix. Alors il n'y avait pas les mots bien ordonnés, peut-être le regretter, mais il n'y avait pas ça. Il y avait vraiment, premièrement, et tout est dans la symbolique, une grande table sur laquelle il y avait énormément d'ouvrages. Donc le rapport au savoir était très présent dans l'assistance. Et on a remis... Tous les parents étaient présents. Il y avait une adhésion très très forte au collectif. Mais à un moment donné, quand on appelait individuellement les élèves, il y avait forcément la valorisation de l'élève. Y compris le pire des élèves quant à ses résultats scolaires. Le principal, gêné, me dit, mais c'est pas le meilleur. Mais comme il veut absolument tout faire et les remplir de plein de bonne volonté, on lui a décerné le prix du fair play. Et je vous affirme que cet élève de quatrième, dont les résultats étaient quand même pas très bons, et je dirais pas autre chose, était valorisé et il retrouvait un statut qui était un statut positif. Ça n'était pas le statut de l'élève dévalorisé ou constamment mis au pilori de la mauvaise note. Il était valorisé. Donc on était dans le singulier là. Vous voyez comme quoi on est passé de l'universel ou du collectif au singulier. Et puis comme tout à l'heure sur la première diapositive, je vous ai parlé de l'individu qui est inscrit dans un peu empirique évidemment. Il est inscrit dans une évolution socio-historique. Il faut faire, et c'est là où il faut faire très attention à ne pas tomber dans le tout socio-historique, parce qu'on va s'éloigner de l'universel indispensable. Mon point d'interrogation sur la convergence, elle est là. C'est qu'à force de dire c'est Dubé qui dit, dans une conversation, dit « Finalement, les choses sont simples quand un élève est en difficulté. Quand le petit Jean est en difficulté scolaire, est en difficulté à l'école, c'est qu'il a des difficultés dans les apprentissages. Quand le petit Johnny est en difficulté scolaire, c'est que c'est parce que ses parents sont séparés ou que son père est au chômage. Et quand le petit Mohamed est en difficulté scolaire, c'est parce qu'il vient d'une famille immigrée et que bon, et il n'a pas l'école. Donc, il faut faire attention à ça. Parce qu'on peut effectivement inscrire un élève complètement dans son évolution socio-historique individuelle et le traiter comme un individu qui l'éloigne de l'universel. Et pour notre école laïque, gratuite et républicaine, ça présente un vrai danger. Il y a des limites, mais il y a des points forts. Et finalement, on peut peut-être considérer que la vérité se trouve au milieu. Sauf qu'on la recherche quand même un peu idéologiquement toujours. L'universel, c'est forcément la recherche de l'unité. Il y a des limites à cela. Mais c'est la force des principes. Mais c'est la force des principes sur lesquels, on verra, il ne faut pas négocier. Mais par contre, c'est un idéalisme, peut-être plus classiquement, mais c'est un idéalisme fondé sur la raison. Quelle raison on reste encore peut-être là, interrogatif. Et puis, sur le singulier, il faut faire attention que prendre en compte la différence peut faire éclater l'appartenance au groupe. C'est ce que je vous disais. Hein. Prendre toutes les différences en considération, on peut s'échapper du collectif qui unit selon les mêmes principes. Par contre, effectivement, il y a reconnaissance des déterminismes sociologiques et historiques et qui peuvent être intégrés dans la démarche pédagogique. Enfin, ça n'est pas la moindre des points forts, mais aussi des limites, c'est que ça donne, je dirais, plus de force au pragmatisme de l'action. C'est à la fois un point fort parce que c'est très lié aux situations individuelles des élèves ou du groupe d'élèves représentant les mêmes caractéristiques. C'est une limite en ce sens qu'il peut être parfois difficile, et il est difficile, de transférer d'un groupe à l'autre ou d'un élève à l'autre une action qui a fonctionné dans un singulier mais qui ne fonctionnerait pas dans un singulier pluriel. Donc tout cela amène forcément à une école pour tous, universelle, et une école pour chacun, singulière. Et les débats actuels autour de l'école, cette quinzaine ou cette vingtaine de bouquins qui paraissent au moment fortuit de la rentrée scolaire, parce que comme on s'intéresse à l'école, on vend les livres, illustrent bien les tensions entre ces deux systèmes de valeurs. Et là, notre système éducatif a énormément d'exemples à donner. Je vous en ai donné au cours de ce propos. La scolarisation des élèves présentant un handicap, c'est quelque chose qui, malgré tout, est relativement nouveau. 1975, il y a eu une loi. On est resté dans le collectif quand même. Hein. On est resté dans le collectif puisqu'on a eu beaucoup de mal à appliquer cette loi, puisque les élèves étaient à la porte de la classe, dans le meilleur des cas, mais à la porte de l'école. Ils n'intégraient pas le fonctionnement ordinaire de l'école. Et alors, pas du tout, je peux vous dire, de l'école dans le second degré. On avait des élèves dans le premier degré. Je crois que ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait avec difficulté. Ça s'est fait progressivement. toutes les études montraient un fort pourcentage d'élèves, enfin un nombre d'élèves assez conséquent dans le premier degré, dans le second degré, terminé. Je m'étais interrogé pourquoi, à partir de la sixième, on ne trouvait plus ces élèves qui étaient en CM2. Parce qu'on les acceptait dans le collectif de l'école primaire et on ne les acceptait pas dans le collectif du collège ordinaire, même pas parce qu'il était collège unique, on ne l'acceptait pas dans le collège ordinaire et pas au lycée, mais par contre, les élèves qui étaient en âge de second degré étaient regroupés dans des structures, hors l'école d'ailleurs, et dans des établissements spécialisés. Aujourd'hui, la loi de 2005 fait rentrer le singulier dans le collectif, puisque c'est l'inclusion des élèves et les parcours personnels, alors les PPS, hein, les programmes personnalisés de scolarisation. Individualisation des parcours, l'ensemble de la rénovation du système éducatif depuis, on va dire, 2006, introduction dans le texte du socle commun de connaissances et de compétences, la loi de 2005 et le décret du 11 juillet 2006, la rénovation de la voie professionnelle, l'aide personnalisée à l'école et la réforme de 2008, la réforme du lycée à cette rentrée-là avec là aussi le tutorat et l'aide individualisée sont justement cet effort qui est fait pour quitter l'universel et aller vers le singulier. Pour autant, si vous demandez à changer le baccalauréat, alors là, tout le monde se dit, bien sûr, j'ai l'exemple de lycéens qui avaient fait une rencontre interrégionale sur quatre pays, j'étais en Champagne-Ardenne, il y avait une rencontre avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, et puis l'Académie de Reims. Et finalement, les élèves de l'Académie de Reims étaient revenus étonnés de voir qu'il n'y avait pas d'évaluation ponctuelle au sens de notre baccalauréat, que finalement les lycéens de l'autre côté des frontières du Nord étaient beaucoup moins stressés que les lycéens français, qu'après tout c'est une bonne idée. Et que finalement l'année suivante, avec les mêmes lycéens, on a retrouvé les mêmes lycéens du CAVL devant nous en disant « il n'est pas question de supprimer le baccalauréat ». Voilà. Et là, on revient du singulier vers un peu l'universel. Des programmes identiques pour tous, et au moins pour le baccalauréat, pour le baccalauréat, et c'est très ancré dans notre histoire, nous ne sommes pas encore prêts à faire muter le baccalauréat vers une autre forme d'évaluation que ponctuelle. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire des évaluations ponctuelles qui s'échelonnent dans le temps, avec une redescente d'un certain nombre d'épreuves vers la classe première, et puis d'autres vers la classe de terminale, dans un souci de spécialisation, réforme du lycée, mais pour autant, on ne revient pas sur la forme d'évaluation. Deuxième point, les acteurs de l'école de la République doivent se retrouver sur des valeurs essentielles et non négociables. Là, il y a deux points sur cette partie-là. Il y a les valeurs de la République d'une part, et d'autre part, j'y reviendrai, les principes de l'école. Sur les valeurs de la République, évidemment, liberté, égalité, fraternité, ça c'est la devise. Ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est égalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on est... vraiment, est-ce que le principe d'égalité, qui d'ailleurs apparaît de moins en moins, la valeur égalité, pardon, qui apparaît de moins en moins sur les frontons des écoles publiques, sur les anciennes, oui, sur les écoles reconstruites ou sur les collèges reconstruits et les lycées reconstruits, ça n'apparaît plus. Hein, je tiens à vous le dire, on voit apparaître volontiers le logo de la collectivité qui a construit l'établissement, beaucoup moins le fonctionnement d'un service public d'État. Certes, nous fonctionnons dans des locaux des collectivités, et je trouve que c'est, je crois que le système éducatif y a profondément gagné, sauf que dans la visibilité, cette adhésion à des valeurs essentielles prônées par la République ne sont plus visibles. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais elles ne sont plus visibles. Et le principe d'égalité est sans doute un principe qu'il faut valoriser auprès de nos enseignants qui arrivent, mais pour autant, vous le savez bien, certains chercheurs, j'ai parlé de Dubé tout à l'heure, on parlerait de Marie Durubella, il y a plein de chercheurs qui mettent en avant que non seulement l'école aujourd'hui n'est pas sur ce registre-là, mais que les méthodes de transmission des savoirs, la manière avec laquelle on évalue les élèves ont plutôt créé de l'inégalité que progresser sur ou vers l'égalité. Il est donc extrêmement important dans l'accompagnement que nous devons faire des enseignants, de tous les enseignants, mais même pour nous, dans notre révolution un peu intellectuelle à faire, d'avoir présent à l'esprit ce principe d'égalité qui doit répondre à une école pour tous, une école pour chacun dont je parlais tout à l'heure. Et l'égalité est encore à conquérir. Il y a des stéréotypes qui sont installés dans l'inconscient. Si un certain nombre d'entre vous viennent de l'Académie de Créteil, je vous renvoie au petit bouquin, ça fait je ne sais plus combien de pages, une quarantaine de pages, sur la conférence de consensus qui a eu lieu sur l'égalité filles-garçons à l'intérieur de l'école. Il y a des textes, c'est un ensemble de textes, ça a eu lieu il y a 18 mois à peu près. Eh bien, on est quand même, on voit que dans l'inconscient de l'enseignant, d'où la nécessité de faire prendre conscience, il y a une valorisation, il y a une manière de s'adresser à un garçon qui est différente de celui de celle avec laquelle on s'adresse à une jeune fille. Il y a émerge le sentiment que on attache inconsciemment à une jeune fille des qualités et d'autres qualités à un garçon, et donc le sujet, l'élève éclate ici, et nous ne sommes plus sur un principe d'égalité. La laïcité, je vous encourage, je vous ordonne, et là c'est l'inspecteur général de l'éducation nationale qui parle, contrôleur, de donner un grand coup de poing sur la table pour réaffirmer auprès de nos jeunes enseignants, qui un peu peut-être comme nous d'ailleurs n'en connaissent pas toute la portée, on voit bien, quand vous parlez égalité filles-garçons, c'est ça aussi derrière. Il faut réaffirmer très clairement le principe de laïcité. Et dans un certain nombre d'écoles, dans un certain nombre de collèges ou de lycées, des conflits émergent face auxquels l'enseignant est en difficulté. Pour résoudre ces conflits. Au nom de quoi vais-je pouvoir intervenir ? Au nom de la loi. Au nom de la loi qui structure la République et l'école. Et certainement pas, comme on le voit dans un certain nombre d'établissements, je mets en garde vraiment les collègues là-dessus, qui auraient tendance à dire, mais est-ce que tel clerc d'une religion, mais pas si d'une religion encore que vous voyez à laquelle je pense, dit cela, est-ce que c'est écrit dans tel livre ? Ça n'a pas d'importance si c'est écrit ou si ça n'est pas écrit dans tel livre. La laïcité est un principe républicain, c'est celui qui fonde notre société, et il est suffisamment riche et protecteur pour qu'il ne soit pas, pour qu'on ne le négocie pas. Il n'est pas négociable. Dans un certain nombre d'établissements, après la loi de 2004, malheureusement, les premières années 2004-2006, la rentrée 2004, il y a eu quelques difficultés, mais vite, très très vite réglées. La rentrée 2005 a fait peut parler d'elle là-dessus. Puis on voit que progressivement, depuis 3 ans, à chaque rentrée, quelques élèves arrivent et on force la porte. On gagne du terrain à l'intérieur de l'établissement sous prétexte que finalement, le lycée ou le collège ne commence que quand on rentre dans les bâtiments. On fait face à des conflits auxquels nombre d'enseignants sont confrontés, on peut faire référence au Coran, on peut faire référence à la Torah ou plus rarement à la Bible quand même, pour des raisons évidemment contextuelles, mais c'est pas ça la laïcité, c'est pas ça le métier d'enseignant. Là, il y a une véritable mission et une véritable valeur essentielle à réinstaller, sans doute pas, mais à affirmer. Et puis, le principe de gratuité, ça fait partie quand même tout ça. Quand je vous dis ça, j'invente rien, hein, c'est dans la déclaration, dans le préambule de la Constitution de 46. Hein. La gratuité. Moi, je pense que faites réagir l'enseignant auquel vous allez laisser beaucoup de liberté quand il va mettre sur pied une sortie scolaire. Oui, la sortie scolaire est un outil pédagogique. Oui, absolument. Ça fait partie de l'ouverture et du singulier dont je parlais tout à l'heure. Mais non, la sortie scolaire n'est pas gratuite. Parce que, à un moment donné, alors soit effectivement l'établissement d'État finance, et là, il n'y a strictement rien à dire. C'est un choix pédagogique qui a été fait. Et le choix de la communauté scolaire de vous accorder, de prendre cette méthode comme une méthode de travail, mais à partir du moment où il y a sollicitation de la famille, nous, on voit bien qu'on fait une entorse à un principe essentiel, à une valeur essentielle. Et je vous demande surtout aussi, dans ce domaine-là, de veiller à ce que les enseignants que vous accompagnez ne soient pas gourmands sur la liste des ouvrages dont ils ont, des matériels dont ils ont besoin, et donc finalement, au bout du compte, ils ne vont pas tous se servir. Et puis à côté des valeurs de la République, il y a les principes de l'école. Le principe d'intégration, ça n'est pas parce que j'y ai participé, mais je vous renvoie, je ne vais pas m'étendre dessus, mais je vous renvoie au rapport qui a fait un petit peu de bruit à la fin du mois d'août, où on a dit ça y est, il y a un rapport que le ministère a fait, mais on se l'est procuré confidentiellement, et c'est sur la lutte contre les discriminations. Nous avions abordé le handicap, le sexisme, le racisme, l'homophobie et la xénophobie, et donc dedans vous verrez combien dans le conscient ou dans l'inconscient Nous sommes encore loin d'une intégration parfaite. Alors je ne sais pas d'ailleurs si la perfection existe, mais pour autant, ce que je peux dire, c'est qu'à l'intérieur d'un établissement scolaire, le sexisme existe. Ce que je peux dire, c'est que, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été interpellé sur une position homophobe de la part d'un CPE. Il y a immanquablement, et combien on peut parfois prendre pour nous et le comprendre, mais il y a de la xénophobie ou du racisme qui s'exprime inconsciemment dans la pratique. On peut même considérer d'ailleurs, et c'est une forme de racisme, mais enfin non, je ne veux pas aller jusque-là quand même, mais on peut même considérer que dans un cours d'histoire, quand on aborde l'histoire coloniale, on soit en difficulté par rapport à ces situations-là, et qu'on est plus une pratique de repentance qu'une pratique de présentation objective des choses. Il faut donc faire très attention, et alors j'interpelle là, les collègues qui seraient accompagnateurs d'enseignants d'histoire-géographie, enfin, sur cette partie histoire, de bien accompagner les enseignants. Nos enseignants sont très en difficulté là-dessus, et pas parce qu'ils sortent d'un master ou, comme l'année dernière, d'une licence ou de l'UFM. aborder ce passage de notre histoire nationale est très difficile parce que notre histoire nationale est composée de cet élément-là et qu'à un moment donné, quand on veut parler de l'autorité de l'État, mais qu'on aborde l'histoire coloniale, eh bien on peut avoir du mal à asseoir l'autorité de l'État dans les savoirs que l'on veut transmettre. Et je le disais, je ne veux pas revenir dessus, mais la laïcité, nous sommes en difficulté, et là, je rejoins l'universel et le collectif, nous sommes quand même en difficulté par rapport à une frange de population sur ce principe-là. L'éducabilité, c'est Mérieux dit, seule la postulation de l'éducabilité de l'autre interdit à l'éducateur d'attribuer systématiquement ses échecs à des causes sur lesquelles il n'a pas pouvoir et d'engager la recherche obstinée de nouvelles médiations. L'affirmation de l'éducabilité de l'autre est aussi paradoxalement un signe de modestie. Elle interdit d'obturer définitivement son avenir, on revient vers le singulier là quand même, hein, en le condamnant à n'en faire qu'une duplication de son passé. Tu t'appelles Mohamed, évidemment tu as des problèmes, ou tu t'appelles Johnny et c'est des problèmes mais d'une autre nature et tu auras du mal à progresser. Elle laisse ouverte la possibilité d'un changement, d'une réussite, d'une rédemption. Écoutez, quand je dis ça, je vous vois là et peut-être que vous vous dites, oh non mais il exagère. Attendez, mais il n'a rien à faire ici, celui-ci. Vous ne l'avez jamais entendu? Et on l'entend, mais... Et pourtant, des enseignants pleins d'allant qui ont envie et qui, quand ils ont face à une classe de seconde, dès le premier... la première rencontre, enfin pas la première rencontre, mais les premières évaluations, il se dit, il n'a rien à faire ici, aujourd'hui, cet élève. Il a... je dirais, les mêmes raisons d'y être que nous. Et il a les mêmes raisons que l'autre, surtout. Puis il y a deux principes sur lesquels je voudrais terminer. C'est le principe d'unité. C'est une grande caractéristique de notre système éducatif français, unité des programmes. Et quand je dis unité des programmes, on le verra, il faut pas laisser prendre le pas... par l'intérêt personnel, on peut avoir envie, on peut être spécialiste d'eux. Un certain nombre d'enseignants, alors surtout maintenant au niveau master, vont s'être spécialisés sur telle ou telle observation, telle ou telle recherche, peuvent donner un peu libre cours à leurs envies. Maintenant, il y a une unité, il y a des programmes nationaux. On n'est pas en Allemagne où il y a des Länder qui font chacun leur programme. Hein, peut avoir plus d'histoire dans l'un, on a tel enseignement de langue dans l'autre. Non, nous, on a ce principe qui, d'ailleurs, est un peu plus... qui complexifie considérablement notre système. Parce que l'unité, enfin, la diversité dans l'unité nous amène à ouvrir une panoplie et un éventail, plus exactement, d'options qui, justement, pour aller de l'universel vers le singulier, brouille considérablement le fonctionnement du système éducatif et rend sans doute très, très, très difficile une des tâches nouvellement affirmées dans les réformes, la mission d'orientation de l'enseignant. Ça devient difficile, hein, et ce que en sciences et technologies industrielles notamment, on a voulu faire, comme d'ailleurs dans la réforme du lycée, c'était de refermer un peu l'éventail pour donner plus de lisibilité au système et favoriser l'orientation de l'élève. Et puis, le principe de continuité, je le mets pour mémoire. C'est vrai que ce principe est valable quelle que soit l'administration de l'État, hein, et depuis longtemps, enfin, on parle de ce principe de continuité dans le service public. Bon, il concerne davantage celui qui pilote un système que celui qui en est acteur, mais pour autant, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un établissement scolaire, dans le projet de son fonctionnement, il faut beaucoup travailler sur ce principe, autrement dit, pouvoir reprendre la plage horaire libérée par un autre, non pas pour faire de l'occupationnel, mais pour pouvoir construire les apprentissages. Et c'est la raison pour laquelle on a, même si cela peut poser des problèmes ici ou là, existe des brigades de remplacement. Et vous aurez sans doute, alors là je pense notamment au premier degré, on sait qu'un grand nombre peut-être d'enseignants, une fois titularisés, vont se retrouver sur des brigades de remplacement. Et à partir de ce moment-là, il y a une pédagogie particulière quand même, qui justement, pour cette spécificité-là, est pleinement dans la continuité des apprentissages qui se sont faits avant qu'il arrive, une enseignante qui part en congé de maternité, et en amont, il faudra savoir passer le relais pour l'enseignante qui va arriver. Jean-Pierre Aubin dit « Soyons attentifs et vigilants. La valeur n'existe qu'à travers la personne qui la vit comme un idéal. L'enseignant transmet d'abord les valeurs à travers ses attitudes et ses actes, et en tout premier lieu à travers les relations qu'il noue avec les enfants et les jeunes. Et habiter la fonction, c'est cela. » Donc il faut amener le stagiaire à forger sa déontologie professionnel en l'amenant, et oui, c'est comme ça, ça a été, ça fait partie des 10 compétences, celles qui ont été mises en œuvre dans un texte de 2006 et qui ont été réintroduites dernièrement au mois de septembre dans le texte qui est paru. Agir en fonctionnaire de façon éthique et responsable, ça veut dire qu'un enseignant, et il faut le dire à nos enseignants cela, ils ont je parlais de déontologie professionnelle, il y a un secret professionnel. Il faut s'interdire de dire ce qu'on pense de machin quand on parle à truc. Et il y a cette obligation de discrétion professionnelle, mais d'information au public, je le reverrai tout à l'heure. Il y a obligation d'effectuer les tâches confiées, obligation d'obéissance hiérarchique. Oui, certains résistent, c'est vrai. Et on les a appelés les désobéisseurs. Ça interpelle quand même. Enfin, moi, personnellement, ça m'interpelle. Être acteur, je passe un peu vite parce que à mon avis, c'est là où les choses sont extrêmement importantes sur cette diapositive-là. Être acteur responsable d'un service public, donc d'un service mis et destiné au public, avec un devoir, je le disais tout à l'heure, de qualité de ce service. Alors évidemment, ce service, cette qualité passe par la qualité pédagogique de ce que l'on dispense, mais ça passe, au moins pour moi, par trois éléments. L'obligation de loyauté. Il faut appliquer et faire appliquer les orientations. La rénovation du lycée, elle n'est pas facultative. La rénovation de la voie professionnelle, elle n'est pas facultative. L'introduction du socle commun de connaissances et de compétences, ça n'est pas facultatif. Ce sont des orientations de fond. Et qu'après, il y ait de la part de tous ici, ou des enseignants que vous avez à former, à accompagner, une exigence d'accompagnement sur le socle commun, oui. Et c'est à l'institution de répondre. Et nous devons répondre là-dessus. Et nous avons encore des marges de progrès. Si vous avez lu le rapport Gropera là-dessus, il montre bien qu'on a encore un progrès. Et puis, cette obligation de loyauté, c'est-à-dire cette obligation dans notre République de référence à l'universel, c'est de faire appliquer, de promouvoir les valeurs de la République et les principes de l'école dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça n'est pas négociable. Parler de la laïcité et agir en fonctionnaire, ça n'est pas négociable. Le deuxième élément fort, toujours à côté de la fonction pédagogique, je ne l'occulte pas, c'est le devoir de justifier ses choix. Justifier ses choix, ça n'est pas demander à justifier ses choix, ça n'est pas une entrave à la liberté pédagogique, puisqu'il y a le mot choix dedans. C'est de faire des choix, mais de dire pourquoi j'ai fait ces choix. En fonction de quel élément j'ai pris telle décision et j'ai pas pris telle autre. Alors ça peut être par rapport à la hiérarchie, ça peut être par rapport aux collègues, notamment quand vous prenez un groupe de collègues, vis-à-vis des élèves, vis-à-vis des parents, peut-être vis-à-vis des partenaires. Mais mon avis, vis-à-vis la hiérarchie, j'aime pas beaucoup, mais notre système est hiérarchisé quand même, hein, déconcentré, mais hiérarchisé. L'enseignant a besoin de se justifier. Le fait de dire, et on l'a vu, ça, c'est de moins en moins fréquent, mais le fait de dire cela m'appartient, c'est ma liberté, cela vous appartient et c'est votre liberté, mais vous devez justifier. Ça se place, je dirais, on est plutôt a posteriori qu'a priori. Le choix de votre méthode pédagogique, il est le vôtre, et parce que vous avez agi en votre âme et conscience. Et puis, l'obligation d'information au public. Et votre public, et le public des enseignants que vous accompagnez, ce sont les élèves et ce sont les parents. C'est être professionnel d'expliquer ses choix, et c'est être professionnel de dire au public et de trouver les mots pour dire à partir du livret de compétences et de ce qui a été évalué, de dire aux parents, parce qu'il y a quand même coéducation, je crois qu'on ne peut pas non plus renier ça, de dire voilà où votre fils se situe, où votre fille se situe. Voilà ce que nous allons faire avec lui ou avec la classe. Vous dédramatisez des situations que d'aucuns trouvent particulièrement et dramatiques ou complexes. Et l'enseignant, il faut inviter l'enseignant à le faire parce qu'il est vraiment professionnel. Et j'ai souvent tendance à faire la comparaison avec le médecin. Le médecin, il ne dit pas tout, mais il pose un diagnostic et il explique pourquoi. C'est plutôt valorisant de penser que un enseignant peut être aussi un médecin du savoir quand les choses ne se passent pas bien. Et puis, il faut habiter la fonction, c'est-à-dire se départir de l'intérêt personnel, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Et là, vous allez le voir arriver. Vous allez voir arriver, et peut-être un certain nombre d'entre vous ont peut-être eu, vous avez de l'expérience, mais on a pu tous avoir ce travers au début de notre carrière. On aime bien les choses. Je pense notamment en économie et gestion, hein. On a des profs d'économie et gestion. Comme la discipline est multiforme, certains mettent davantage l'accent sur le droit. D'autres vont beaucoup porter sur l'informatique. Bon, il y a quand même dans l'universel de notre école des programmes avec des horaires et puis des contenus. Donc on peut avoir envie de traiter un sujet au fond. Est-ce que l'élève a envie de traiter le sujet au fond et le même que vous? Il a, je crois, envie d'avoir le programme. Séparer sa vie publique de sa vie privée, je le rappelle régulièrement, mais ça me paraît important. Et les relations personnelles avec les élèves sont parfois dangereuses et elles peuvent briser l'autorité. Alors, je ne sais pas s'il faut utiliser le « vous » ou le « tu ». Il y a eu un débat là-dessus. Il y a peut-être des choses qui vont être écrites ou qui sont écrites, je ne sais pas. Sauf que dans le langage que vous utilisez avec l'élève, vous y mettez du personnel. Il faut savoir jusqu'où vous arrêtez le personnel pour garder le professionnel. Et s'obliger à la neutralité et se soumettre au devoir de réserve, ça fait partie de ces principes forts qui évitent le prosélytisme, l'engagement politique, l'exercice politique. Mais ça, ce sont des choses que vous connaissez, mais je pense qu'il faut rappeler ça aux enseignants. Et puis, on y reviendra, assurer un rôle modélisant. Je vais passer dessus parce que je vois le temps. Et puis, accompagner, c'est une dans tout ce cadre-là, c'est une éthique du respect, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Respecter le stagiaire pour qu'il respecte l'élève dans le groupe. Et respecter le stagiaire, c'est l'accompagner, mais ne pas imposer. Mais ne pas imposer. Vous avez votre modèle et vous héritez d'un modèle, mais il a peut-être, il faut peut-être, enfin, ce modèle n'est peut-être pas parfait, quoi. Celui qu'il va emprunter, pas forcément d'ailleurs, mais il se sentira peut-être plus à l'aise. et accompagner, ça n'est pas précédé. Ça peut être indiquer le chemin, indiquer les voies, indiquer les ressources, indiquer les objectifs, mais ça n'est pas précédé. Et de toute façon, ça n'est pas faire à la place d'eux. Par conséquent, si ce n'est pas tout ça, c'est laisser de l'initiative et de la respiration. Parce que nous sommes très marqués, je le dis, par notre histoire professionnelle ou personnelle, et que la réaction à une situation pédagogique ou à une situation éducative, elle est aussi liée à ce qu'on est. Mais celui qui arrive, professionnellement, et par rapport à la profession qu'on lui propose, il est en devenir. Je ne veux pas dire qu'il est rien, mais il est en devenir. Donc laissons-le devenir, mais laissons-lui exploiter ce qu'il apporte de l'extérieur. Accompagner cet invité à créer les programmes clairs, collège, lycée, ambition, innovation pour la réussite. Les programmes clairs fondent leur fonctionnement sur l'innovation. Alors, je fais volontiers la différence entre inventer et innover. En fait, c'est bien pour créer quelque chose, créer de nouvelles conditions, choisir de nouvelles méthodes pour faire réussir les élèves. C'est laisser l'enseignant, non pas se débrouiller seul, mais créer pour innover, c'est de pouvoir prendre la mesure des ingrédients qu'il va mettre et de la manière avec laquelle il va les organiser et les ordonner pour faire réussir l'élève. C'est toujours avoir cet esprit-là. Et laisser faire l'enseignant, y compris laissez-le se tromper. Il ne faut pas que ça soit la catastrophe, il se trompe une fois, vous prenez les choses peut-être. Mais je crois que dans notre métier, tant qu'on n'a pas été confronté à une difficulté, voire à un échec, on n'en mesure pas la portée. Quand on n'a pas été confronté à une situation de violence à l'intérieur de sa classe, on n'est pas préparé à prendre les informations ou la formation sur la prévention de la violence. J'en suis persuadé. Quand on n'a pas été confronté à une situation, à l'accueil d'un élève handicapé, on n'est pas forcément préparé l'esprit n'est pas forcément prêt en amont, hors situation, à ce qu'on parle du handicap. Donc, accompagner, c'est ça. C'est dire, t'es pas préparé, mais voilà une situation, et d'une situation professionnelle, on en fait une situation d'apprentissage. Et puis, comme je vous dis, il peut se casser la figure, et bien accompagner. Alors, dans notre métier, c'est inviter à prendre des risques. Et notre système éducatif, depuis 3 ans, multiplie les occasions de prendre des risques sans risque. Alors, avouez que ça, c'est quand même confortable. Les stages de remise à niveau en CM1, CM2, l'aide personnalisée que l'on trouve dans tous les niveaux de notre système éducatif. Pour l'enseignement des langues, les stages de langue qui sont proposés. Ça reste des espaces de temps où on peut construire des expériences, où on peut construire des méthodes en toute liberté et les expérimenter. Je défie quand même de trouver un enseignant nouvellement recruté qui ferait ça de façon machiavélique et diabolique en disant c'est pour faire échouer les élèves. On est bien là dans un espace, non pas qui est forcément contrôlé, mais où le temps est un allié pour pouvoir permettre de prendre des risques. On est en petit groupe, on peut corriger une erreur, un échec en petit groupe qu'on ne peut pas faire en collectif. Enfin, dernier point, faire émerger l'image identificatoire de l'enseignant du CPE auprès des jeunes qui l'éduquent. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'il faut aussi transférer vers le jeune. Et c'est l'enseignant qui, fort de ses principes, fort de ses valeurs, fort de cette ouverture que vous lui avez, que vous lui avez autorisée, eh bien, pourra être identifié comme celui qui apporte quelque chose et qui, moi, jeune, me permet de m'élever et de me former. Alors, les petits ballons, parce que c'est vrai que c'est difficile à tenir et qu'il y a plusieurs champs. Alors bon, j'ai pas eu le temps, mais en principe, il monte et puis il s'éclate. Mais pour la prochaine fois, Marie-Françoise, si tu me réinvites, enfin je sais pas, on verra après, je les ferai monter. L'accompagnement, et c'est bien accompagner pour, dans l'appropriation du cadre. C'est bien, et ça c'est une vraie éthique, accompagner dans la maîtrise de la langue. Ces chants-là sont des chants sur lesquels on peut repérer l'enseignant en tant que investi d'une mission ou d'une posture éducative. Les réformes, l'appropriation du cadre, posture éthique et appropriation du cadre. Et c'est votre rôle d'expliciter les réformes. Alors je sais, je l'ai dit tout à l'heure, pour le socle commun de connaissances et de compétences, qui est une réforme structurelle de base, c'est difficile parce que, alors que nous avons toujours travaillé sur les savoirs et que nous sommes les héritiers d'une formation au savoir par le savoir, on demande d'aller vers les attitudes et les aptitudes. Et que si nous ratons cette réforme et si nous ne portons pas cette réforme au plus proche de l'élève, du lieu d'apprentissage, alors on va rater les choses. Et on va se prendre 10 ans dans la vue avec tout ce que cela a comme conséquence pour des élèves. Mais réforme du premier degré, socle commun de connaissances et de compétences, réforme de la voie professionnelle, réforme du lycée général et technologique, à tous les niveaux, elles font passer l'universel vers le singulier et elles individualisent le plus possible le parcours. Et quand on a été élevé au collectif, on a du mal à passer au parcours, sauf que votre responsabilité d'accompagnateur, de tuteur, d'évaluateur, elle est là. Elle est là avant toute chose. C'est bien de faire passer le cadre, obligation de loyauté tout à l'heure. Alors, à partir du moment où vous avez dit ça et que vous avez explicité les réformes, tout reste à faire. S'il s'agit de... Je veux dire, c'est bien joli de dire la réforme, c'est ça. Sauf que votre enseignant, il a besoin de savoir comment il va faire fonctionner. Quelles sont les couleurs qu'il va mettre dans le cadre que vous lui avez donné. Et donc, il faut, dans votre posture à vous, vous appuyer sur le savoir, sur son savoir, pour mieux dépasser son savoir. C'est sécurisant. Et impulser l'approche par les compétences, c'est prendre votre enseignant, votre stagiaire, là où il en est, avec ce qu'il sait, et qui plus est, au niveau master, c'est une richesse supplémentaire, il en sait plus, mais il a aussi une méthode pour savoir, puisqu'il est introduit pleinement dans un dispositif de recherche. Et donc, vous pouvez vous appuyer sur ça, notamment... pour, au travers des recherches, de la méthode qu'il a su mettre en œuvre pour la rédaction des différents mémoires qu'il a, notamment le mémoire qu'il a eu à produire, pour impulser l'approche par les compétences, pour faire émerger des situations motivantes, pour lui faire ressortir situations observées, de situations professionnelles, lui faire sortir l'apprentissage et faire émerger et transformer cette situation professionnelle en situation d'apprentissage et lui faire construire une situation complexe. Déconstruire et construire. Deuxième point, c'est parce que le monde change. Quand on parle de compétences, c'est bien parce que les choses changent. C'est faire dépasser le savoir seul pour aller vers l'éducatif. Aujourd'hui, nous sommes quand même l'enseignant, comme le CPE, comme le conseiller d'orientation psychologue, est très attaché, et surtout l'enseignant, hein, mais il est très lié à sa discipline, et donc il est très lié au savoir qui compose sa discipline. Donc il est important de le faire dépasser cela pour dire que la discipline qu'enseigne tel ou tel enseignant contribue à l'éducatif et à la formation du citoyen et ne peut pas s'enseigner en tant que tel. L'universel, c'est important, on ne s'en départit pas pleinement, mais on le rattache à un univers plus large encore qui est l'éducatif. Il faut donc faire prendre conscience que la discipline est un élément de l'univers scolaire, de l'universel scolaire, mais ça n'est pas l'universel à elle seule. Et il faut aussi appeler l'attention sur la place de la règle, peut-être de la rigueur, peut-être encore à chercher cette place-là, mais il n'y a pas d'éducatif et il n'y a pas d'éducation sans une éducation à la rigueur, à la règle, au respect de la règle. Et puis, il faut que vous parveniez à dépasser et à faire dépasser au stagiaire son enfermement, écouter sa demande, quand je dis ne pas le précéder, si vous ne voulez pas le précéder, ça veut dire qu'il faut quand même répondre à ses besoins, ou sinon vous risquez d'avoir une offre qui ne correspond pas à sa demande. Donc, écoute de la demande, analyse du besoin, analyse avec lui des stratégies, notamment une fois qu'il aura abordé les compétences, valorisation des acquis et des points forts. Vous pouvez aussi contractualiser, contrat de confiance sur des objectifs partagés. Et puis, je crois qu'il nous revient, nous cadres, accompagnateurs des personnels, d'organiser des dispositifs d'accompagnement pour favoriser une approche collective par les pairs. Il y a une confiance qui s'installe dans les pairs, surtout si les pairs sont comme vous êtes, experts, PERT, vous êtes des pairs PAIR, S, experts, PERTS, papa, vous avez bien compris, pas ex-pair, bien écrit comme il fallait. Mais c'est bien ça qui va sécuriser aussi le parcours du stagiaire. Lui faire prendre conscience de ce qu'est l'évaluation et de ce qu'est une politique d'évaluation. C'est à dessein que cette diapositive est ici parce que l'évaluation est consubstantielle de la formation. Je crois beaucoup à l'évaluation formative et on ne peut pas distinguer la formation, même la didactique, si on va encore plus au cœur, de l'évaluation. Et pour cela, il faut faire accepter inconditionnellement tous les élèves. On ne porte pas de jugement sur les élèves, on s'interdit de porter des jugements. Par contre, on s'oblige à les évaluer et, éthiquement parlant, il faut rayer du vocabulaire, de la sémantique des enseignants, cet élève n'a rien à faire ici. Ou, vous le rencontrerez, parce que vous le dites, oh mais les familles n'ont pas d'ambition. Je vous défie de trouver une famille qui n'a pas d'ambition pour ses enfants. Que l'ambition soit mal formulée, mal formalisée, que le projet d'avenir ne soit pas aussi long qu'on le souhaiterait, ça je veux bien. Mais dire il n'a rien à faire ici ou je ne le vois pas là où il n'y a pas d'ambition, non. Il y a des ambitions qu'il faut travailler, il y a une position à donner à l'élève. Et comme on parle d'évaluation, il y a un positionnement à faire de l'élève pour mieux prendre appui sur les résultats de ce positionnement, le diagnostic du médecin dont je parlais tout à l'heure, de façon à pouvoir engager des procédures et des méthodes pédagogiques. Et ça, c'est par là que votre accompagnement doit commencer. Et puis faire advenir l'élève comme un sujet, je dirais peut-être comme un acteur. Vous devez, pour qu'il devienne sujet, sujet-acteur, il faut que vous lui explicitiez, il faut cette obligation de rendre compte, cette obligation d'informer le public. Je vous signale que c'est quand même la loi de 1983 qui encadre la fonction publique. Faire advenir, donc expliciter pour les élèves, favoriser l'auto-évaluation, mais de toute façon l'auto-évaluation ça s'apprend quand même. On ne s'auto-évalue pas comme ça. C'est aussi une méthode. D'ailleurs, quand on regarde, quand on fait s'auto-évaluer les élèves, on constate toujours qu'ils sont beaucoup plus sévères que l'enseignant parce qu'ils n'ont pas valorisé les progrès, explicité les besoins, faire expliciter les besoins des élèves et surtout lier évaluation, aide et je dirais transmission de savoir aussi. Et il faut faire mesurer la portée des évaluations. Et là, il faut absolument promouvoir les valeurs humanistes qui sont les nôtres. L'élève est-il une personne ? Parce que, oui, il est une personne. Oui, il est une personne. Et par conséquent, on fait attention aux termes qu'on utilise dans la relation qu'on a avec l'élève. Je vous mets en garde et je vous demande d'être attentif à ce qu'on ne dérive pas dans le parler élève pour mieux se faire comprendre de l'élève. C'est une erreur, à mon avis, fondamentale, qui, par rapport à l'éthique respecter l'autre, est complètement en porte-à-faux. Parce que l'élève vient à l'école chercher le respect. Mais pas le respect, tu te mets à genoux devant moi. Tu t'adresses à moi comme celui qui vient chercher un service et auquel tu vas apporter un service. Et ce que nous trouvons encore sur les bulletins trimestriels est parfois très destructeur, bloquant dans le progrès d'un élève. Et il faut absolument trouver dans une évaluation formative et dans la consignation de cette évaluation sur des supports qui vont être consultés par la famille et par l'élève, trouver des termes de progrès. Nous ne sommes pas là pour arrêter les élèves par une terminologie qui parfois peut paraître offensante, mais nous sommes là pour utiliser les mots aussi pour faire progresser les élèves. Posture éthique et maîtrise de la langue, il faut faire s'ouvrir la discipline que vous accompagnez, la vôtre d'ailleurs, et les autres, au bien commun de tous. Et chez nous, c'est la langue française. Et en dehors de la langue française, non maîtrisée, nous rencontrons les pires difficultés. Ça peut paraître curieux que je dise cela, mais aujourd'hui, sur un certain nombre d'écoles, sur un certain nombre de lieux, soit en réaction à des situations d'évaluation destructrice d'ailleurs, soit en réaction, en provocation à des postures d'enseignants, et souvent des postures mal expliquées, vous avez des catégories de population immigrée qui rentrent dans leur langue et qui, à l'intérieur du groupe classe, ne communiquent dans leur langue maternelle. Et là, pour l'enseignant, ça crée un vrai blocage parce qu'il est en vraie perdition. C'est extrêmement important. Et il est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier point que je vais aborder par là. Le deuxième point, c'est que l'enseignant de maths, le CPE, l'enseignant de sciences physiques, a autant de légitimité sur la transmission, la correction, l'adéquation de la langue que le professeur de lettres, qui d'ailleurs est professeur de lettres, je le rappelle aux autres, évidemment qu'il est professeur de français, mais il est professeur de lettres. Et sa discipline concourt au même titre que l'enseignant de sciences physiques à la maîtrise de la langue française, en plus d'une compétence et d'une contribution à la culture du citoyen. Le bien commun ici, et qui unit toutes les disciplines dans leur grande diversité, ça reste quand même la langue française. Et puisqu'on parle de la langue française, si nous voulons qu'elle soit maîtrisée, parce que les mots de la langue française portent leur valeur, là aussi, On a parlé de la laïcité, vous êtes incapable de me trouver un mot autre, semblable dans les autres langages, puisque ça n'est pas dans le système de valeurs. Il faut donner aussi la place à l'expression des élèves pour qu'ils soient sujets. C'est-à-dire introduire le plus possible et faire introduire dans la méthode que vous conseillez à vos enseignants l'expression de l'élève, mais l'expression individuelle de l'élève, pour que l'élève puisse dire, évoquer par les mots ce qu'il ressent ou ce qu'il n'a pas compris, plutôt que de le constater une fois le devoir fait. C'est aussi par là que l'élève, et notamment l'élève dont la langue française n'est pas la langue maternelle, c'est aussi par là qu'il parviendra à mieux maîtriser la langue et à en avoir moins peur. Et pour les enseignants de langue, c'est aussi dans favoriser l'expression sans systématiquement la corriger parce que la déclinaison ne sera pas la bonne, favoriser l'expression orale des élèves, la prise de risque dont je parlais tout à l'heure, qu'on donnera à l'élève qu'on a en charge la possibilité de mieux acquérir, je parle aux linguistes, de mieux acquérir la langue. Nous voyons partout que les expressions, enfin, les formes de rejet de l'école, le rejet de l'école, les formes de violence sont souvent la conséquence d'une non-expression, d'une non-verbalisation de l'incompris, voire du compris d'ailleurs, hein, à l'intérieur du groupe. Promouvoir une culture citoyenne, c'est d'aller dépasser le savoir pour aller vers l'éducatif. Donc, inciter, qu'est-ce que c'est difficile, hein, inciter au décloisonnement des savoirs pour forger une conscience citoyenne sur les enjeux contemporains. Oui, c'est difficile. Je crois que quand vous en serez là, on pourra faire une évaluation. C'est ce vers quoi il faut tendre. Enseigner une discipline, enfin, enseigner sa discipline pour vous-même ou pour l'enseignant dont vous avez que vous avez en tutelle, ça a un sens puisque il a été formé pour ça, il aime cette discipline et il a envie de faire partager cette discipline. Faire partager cette discipline, pas forcément celle d'à côté d'ailleurs. L'élève n'est peut-être pas dans la même situation. Et l'élève dit, mais à quoi ça sert ça, monsieur? Ou à quoi ça sert ça, madame? Il faut donc préparer l'enseignant à répondre à cette question-là. Parce que c'est vrai que du plus loin d'où on enseigne, eh bien, on peut ne pas forcément savoir expliquer le sens de sa discipline dans l'ensemble des disciplines à l'élève. Parler hier soir, pourquoi est-ce que aujourd'hui, dans le programme d'histoire, certains ont cru qu'on avait exposé trop au soleil le roi soleil pour qu'il fonde, et Napoléon, on l'avait laissé à Sainte-Hélène pour le faire disparaître des programmes et pour le remplacer par une connaissance des civilisations ou d'Afrique ou d'Asie. Alors évidemment, vu comme ça, on se dit que ça n'a pas de sens. Sauf que notre histoire nationale s'est construite aussi par des apports de civilisations externes. Et puis, dégager les fils directeurs transversaux aux disciplines pour plus d'objectivité, pour objectiver ces enseignements. Ça, c'est... Et laisser la parole à l'élève, c'est lui permettre d'exprimer, de forger son sens critique. C'est l'argumentation, c'est le raisonnement, c'est le débat. Ce sont, à mon avis, le débat argumenté duquel ressort ces éléments-là. C'est sans doute, et les enseignants et les collègues du premier degré, inspecteurs du premier degré, ne peuvent pas me contredire, c'est sans doute l'exercice le plus difficile à maîtriser, parce que, y compris quand on est au lycée, un débat argumenté peut complètement déraper. Et l'objectif, s'il n'est pas maîtrisé, peut être complètement perdu, en plus du temps passé. Vous pouvez perdre une heure complète d'enseignement si le débat argumenté n'a pas été maîtrisé. Et puis, quand on a dit que la discipline contribuait à l'universel scolaire, que la discipline s'intégrait et à une formation plus large aussi du citoyen, eh bien, vous devez apprendre à l'enseignant nouveau, lui donner le sentiment, le former à l'appartenance à une communauté scolaire. C'est sans doute ce dont on souffre le plus aujourd'hui, après des années d'adhésion à, je ne sais pas si c'est à un idéal, mais au moins, là pour le coup, à un collectif large, de valeurs largement partagées, force est de constater, et ça revient à mon introduction de tout à l'heure, force est de constater que l'individualisme de l'enseignant s'est, je crois, considérablement renforcé parce que nous n'y avons pas suffisamment veillé ces dernières années, et il n'est pas certain que tous les enseignants se retrouvent dans une communauté scolaire parce qu'ils n'ont pas été préparés ou ils n'en ont pas partagé le projet. Et à partir de là, vous voyez combien il est difficile de faire de l'enseignant un modèle d'appartenance à des valeurs si lui-même n'est pas intégré à une communauté de valeurs. Je dirais que peut-être avant toutes les choses que j'ai dites, c'est peut-être celle-là qu'on devrait mettre en début. Parce que quand vous appartenez à une communauté de valeurs partagées, combien il est plus facile de faire approcher collectivement par les pairs le processus éducatif et la déontologie professionnelle que nous devons apporter à nos enseignants. Et en conclusion, je voudrais dire que peut-être, mais ça, c'est peut-être pour ouvrir le débat sur le temps qui reste. Je dis qu'aujourd'hui, en présentant tout ça et avec le recul, peut-être que si nous peinons beaucoup dans les valeurs, dans l'éthique, dans la morale, dans la déontologie, c'est que l'école française, obsession française, est sans doute engluée, et je vais faire réagir, mais tant pis, je m'y risque, engluée dans des débats idéologiques qui la sclérose. Et il me semble que sans ignorer ces débats, parce qu'ils sont enrichissants, il nous revient à tous de mettre en distance l'enseignant, l'acteur scolaire, pour être plus générique, à distance de ce qu'il est, à distance de son histoire personnelle, sinon il risque de reproduire ce qui pour lui a été bien, mais qui n'est pas forcément bien pour le singulier, mais aussi de le mettre en distance de ce qu'il entend ou de ce qu'il est susceptible d'entendre, parce qu'il est susceptible de rentrer dans un dogme qui, parce que dogmatique, pourrait être rigide et finalement trop s'éloigner du singulier et de l'empirisme qu'on peut trouver chez les élèves. Et votre rôle à vous, accompagnateur, c'est bien ça, c'est d'avoir conscience, de prendre conscience de ces débats autour de l'école qui sont particulièrement riches et qui contribuent, qui devraient contribuer si portés à leurs limites, ils ne sont pas à la sclérosée, mais devraient contribuer à l'enrichissement de l'école. Eh bien, votre action, en ayant conscience de ça, c'est bien de mettre l'acteur scolaire à distance de ce qu'il est, sans rompre avec ce qu'il est, mais à distance avec ce qu'il est, et à distance de ce qu'il entend, sans lui boucher les oreilles, pour qu'il soit au service de la réussite des élèves. C'est un peu provocateur, mais après tout, je ne suis pas là pour aller forcément dans le sens du poil de tout le monde, et on peut en débattre. Merci.